Eh bien, Jésus, nous te remercions pour cette belle matinée ensoleillée et nous te prions pour que ta parole fasse vraiment du bien à chacun d'entre nous et à tous ceux qui viendront écouter ce message sur Internet. Seigneur Jésus, je te prie que ton Saint-Esprit nous conduise et à comprendre vraiment les mystères, ces choses merveilleuses et si profondes. Je te prie, mon Dieu, que chacun puisse être au fait de tout ce qui est en train de se passer dans ton Église, un peu partout dans ce monde. Oh, veuille, Seigneur, avoir pitié de ceux qui s'égarent. Merci, Jésus. Amen. On va faire un chant. On va faire lequel, mon bon frère? Le 18. Nous excusons au sujet de vendredi. Le son était un peu bas. Mais bon, je pense qu'en collant votre oreille à haut-parleur, vous avez réussi quand même à entendre la prédication. Voilà, que Dieu soit béni. Le numéro 18, mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Amen.
Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Réjouis-toi et sois fidèle. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Et tout sera comblé. Il y a bien plus de joie à donner qu'à recevoir.
Gloire à Dieu. Merci les musiciens. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. C'est vrai que tant qu'on met de l'amour dans ce qu'on fait, il peut y avoir des petits problèmes, mais l'amour règle tout. À partir du moment où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de confiance, alors là, évidemment, ça devient un peu plus difficile. Mais nous avons toujours de l'amour et de la foi et de la confiance. Amen.
Amen.
Gloire à Dieu. Notre Seigneur est tout puissant. Et ce matin, je voudrais vous lire dans Lamentation de Jérémie. C'est pas que je veux me lamenter ce matin. Hein. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 37, s'il vous plaît. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés ou de ses propres erreurs. Amen. Frères et sœurs, quand la Bible nous dit que l'Église est le corps de Christ, les gens qui ont écrit ça il y a à peu près 2000 ans, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ne pouvaient pas savoir à quel point cette image était réelle et profonde. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait et qu'on a découvert maintenant par la science et qui viennent nous montrer que c'est tout à fait inspiré, c'est tout à fait vrai. Vous savez que, bon, le corps de Christ, il existe sur terre, mais il existe aussi de façon locale. Par exemple, ici, nous avons la communauté du sanctuaire. C'est le corps de Christ local. Mais nous ne sommes pas le corps de Christ en entier. Hein? D'accord. Le corps de Christ aujourd'hui est malade, il souffre, il est persécuté. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Il y a toujours eu, mais là, en ce moment, ça devient grave parce que c'est la fin. Et ça va devenir tellement grave que si Jésus ne raccourcissait pas le temps, eh bien, personne ne pourrait être sauvé. Donc, on n'a encore rien vu. Ça va être de plus en plus difficile. Alors, on s'y prépare, on le sait. On ne va pas être surpris. hein, comme ceux qui ignorent ces choses. Jésus nous avertit, on le sait, on sait que c'est vrai, et non seulement parce qu'on le constate, mais parce que l'Esprit de Dieu nous inspire. On n'a pas besoin d'avoir une date qui nous dit, voilà, Jésus revient à tel et tel moment. Mais nous savons une chose, c'est qu'il revient bientôt. Amen. Parce que les choses deviennent graves. Il y en a encore pour quelque temps, je pense, mais ça va devenir grave. Un corps, il est formé d'électrons qui se manifestent de notre corps sous la forme de cellules. Je parle là de notre corps à nous, hein, notre corps humain, puisque Jésus compare son Église à un corps humain. Et chaque électron, chaque cellule possède une vie, c'est-à-dire une intelligence. Une intelligence suffisante pour pouvoir exécuter ses fonctions dans l'anatomie humaine. Toutes les cellules n'ont pas la même intelligence parce que toutes les cellules n'ont pas la même fonction. Ça va, vous me suivez? Ça, l'apôtre Paul, il ne pouvait pas savoir, ni Jean, ni Pierre, ni... Jésus le savait, mais il ne disait pas, ça ne servait à rien à l'époque. Hein. Chaque partie de notre corps se compose donc de cellules dont certaines fonctionnent indépendamment des autres, mais elles fonctionnent toujours en communauté. Vous avez la communauté des cellules chirurgiennes, vous avez toutes sortes de communautés, certaines s'occupent de créer des tissus. Hein. Hier, en voulant mettre une vis, je me suis blessé. Et ce matin, ben, il n'y a plus rien déjà, dis donc. C'est étonnant, hein. Ça veut dire que je suis en bonne santé. Et tandis que d'autres cellules s'engagent dans la formation de diverses sécrétions nécessaires pour le corps. Par exemple, en ce moment, je suis en train de saliver. Hein. Ben, est-ce que je me dis, tiens, il faudrait que je salive? Non, ça se fait automatiquement. J'ai des cellules vivantes qui sont intelligentes, qui savent que je suis en train de parler. Donc, il faut rajouter un petit peu de salive là-dedans pour que... J'ai pas la bouche, que ça soit cool, quoi, que ça soit bien tranquille. Et puis il y a toutes sortes de fluides. Enfin, certaines cellules agissent comme des transporteurs de substances. Vous avez des substances qui parlent de la glande thyroïde et puis qui vont dans toutes sortes d'endroits. Vous savez ça, hein? Michou qui est infirmière, elle connaît, et toutes ces choses-là. Enfin, d'autres sont des cellules chirurgiennes. Elles réparent les dommages. Et ça, c'est extraordinaire de voir comment Dieu a fait les choses tellement bien. D'autres cellules sont des extracteurs qui emportent les déchets. Vous éliminez pas les déchets? Plus, je fais pas de dessin. On élimine des déchets, hein, ne serait-ce que par la transpiration. Hein. D'autres cellules sont continuellement prêtes à repousser des envahisseurs ou d'autres intrus indésirables, de la famille des microbes, de tous ces trucs-là, de tous ces machins. D'accord? C'est des cellules qui sont là au combat. Et, ben, est-ce que vous le savez? Ben, on le sait maintenant, oui, mais ça agit d'une façon, c'est magnifique, ça agit tout seul, on n'est pas obligé d'y réfléchir. Tiens, allô, allô, les amygdales, je vous envoie le poisson. Non, c'est pas comme ça. Vous vous rappelez le sketch, hein, c'était rigolo, mais c'est pas comme ça. On ne réfléchit pas à ces choses, elles se font dans notre corps d'une façon magnifique. Mais toutes ces cellules se meuvent dans un but commun. C'est le but du corps, de l'être qui vit dans le corps. C'est-à-dire, moi, j'ai mes cellules à moi, dont je n'ai jamais vu une, hein, mais je sais une chose, c'est qu'elles travaillent dans le but de mon bien-être. C'est magnifique. C'est magnifique. Chaque cellule est non seulement un organisme vivant, mais elle possède une intelligence suffisante pour pouvoir exécuter ses fonctions parfaitement. Et chaque cellule est aussi dotée d'un pouvoir, d'une intelligence pour maintenir l'énergie et pour perpétuer sa propre vie. C'est curieux quand même. C'est curieux quand même. Chaque cellule garantit sa propre alimentation. Travaille pour ça. Il n'y a pas de cellule qui fiche rien et puis qui bouffe sur le dos des autres. Et puis à la fin, on est obligé de faire les comptes. On dit, ah oui, ben bon, la cellule d'un tel, elle doit tant. Non, il n'y a pas de ça. Chaque cellule bosse correctement, fait ce qu'elle doit faire d'une façon correcte. Chaque cellule exerce un choix dans la sélection de ses aliments. Hein, c'est comme chez nous, par exemple, ici, dans le corps de Christ, au château Sanctuary, ben vous avez des gens qui mangent plus ou moins de sucre parce qu'ils ont des petits problèmes de diabète. Vous en avez d'autres qui mangent plus ou moins de gras. Vous en avez d'autres,
comme Philippe, qui fait un régime extraordinaire, mais j'arrive pas encore à bien comprendre. Il faudra qu'il nous explique bien ça quand on sera là-bas tous ensemble, parce que je trouve que c'est fantastique. Il est toujours en forme, avec une ligne de jeune fille de 20 ans. Bonjour Philippe, bonjour Marie-Claire, Dieu vous bénisse. On est fiers de ce que vous faites là-bas, vous êtes extraordinaire. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes tout le temps avec nous. Voilà, puis vous avez toutes les cellules, elles naissent, elles se reproduisent et elles meurent. Vous saviez ça? Il paraît que tous les 11 ans, tout est nouveau dans notre corps. C'est-à-dire, elles se reproduisent vraiment bien parce que, bon, on vieillit un petit peu, mais on est toujours quand même jolies, hein? Elles meurent, mais elles sont aussi absorbées. Elles sont absorbées, il n'y a rien qui se perd. Et le maintien de la santé et de la vie de notre corps dépend de la régénération constante de ces cellules. Il est donc évident qu'il y a un esprit, une vie, une intelligence dans chaque atome de notre corps. C'est pas du hasard, c'est pas du n'importe quoi. Alors écoutez bien ça. Nos cellules sont vivantes et ont donc un esprit, c'est-à-dire une vie qui leur est propre. L'esprit de ces cellules est négatif, pas dans le sens de mauvais. Si vous prenez un aimant, il y a le pôle positif et le pôle négatif. Le pôle négatif n'est pas mauvais, il est simplement à l'opposé de l'autre. Mais il doit y avoir toujours l'opposé, il doit toujours y avoir les deux côtés. Ça, c'est partout dans toute la création, c'est comme ça. Alors, les cellules qui forment votre propre corps sont le pôle inverse de ce que vous êtes. C'est bizarre ce que je vous dis là, hein? J'explique. C'est votre esprit, votre vie, ce que votre être, ce que vous, consciemment, vous êtes, qui a le pouvoir de penser ce que vous êtes, l'être que vous êtes, conscient, ça a le pouvoir de penser et ça donne la positivité aux cellules. C'est ce qui met tout ça en action. Ce sont vos pensées, votre esprit personnel, qui est capable de contrôler l'esprit négatif de vos cellules, c'est-à-dire l'autre pôle de vos cellules, pour que tout marche bien. C'est vos pensées. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous êtes malade mental, si vous êtes, ben voilà, vous allez avoir des attitudes, vous allez avoir un mal-être, il y a des choses qui ne vont pas se faire correctement. Et puis même maintenant, comme je le dis souvent, avec toutes sortes de soucis, et de choses mal réglées, de péchés, de choses, on peut se faire des maladies. Ce qu'on appelle psychosomatique, c'est-à-dire que les cellules fonctionnent mal parce qu'on pense mal, parce qu'on manque de quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre être. Nous savons maintenant qu'une personne qui entretient des pensées positives, ou si vous voulez, dans un vocabulaire plus chrétien, des pensées de foi équilibrées, peut traiter sa propre guérison, peut la hâter. Maintenant, il y a toujours quand même la volonté de Dieu en haut, hein. D'accord. Donc, il faut bien mourir de quelque chose, je ne sais pas. Donc, voilà. Mais j'explique mieux. Cet esprit négatif qui est contenu dans chaque cellule de notre corps, on l'a appelé longtemps l'inconscient. Parce que cette vie interne des cellules qui sont en nous, cette vie agit sans que nous en ayons conscience. Alors, on l'appelait l'inconscient. Il a été constaté, et pas seulement par des chrétiens illuminés, comme Michel Janton, ou par des doudingues comme le New Age ou je ne sais pas quoi, mais il a été constaté, même par des médecins, par des psychiatres, par des gens sérieux, hein, que l'inconscient est sensible à la volonté du conscient. Nos cellules sont sensibles à notre volonté, à ce que nous voulons, à ce que nous désirons. Alors, voyez cela sur le plan du corps de Christ maintenant, puisqu'il compare l'Église à son corps, dont il est la tête. Son esprit n'inspire-t-il pas les membres de son corps qui est l'Église? Ben oui, ça vient de la tête. C'est son esprit à lui qui inspire la vie de chacun d'entre nous, notre vie. Nous sommes Nous sommes des vies à part entière. Oui ou non? Oui. Mais c'est son esprit qui inspire chaque cellule. Et nous avons quelque chose à faire et à être dans le corps de Christ. Et si nous agissons sans tenir compte de l'esprit du corps, ah, nous devenons un danger pour le corps. Nous le rendons malade. Alors, nous naissons dans le corps. Moi, je suis né dans le corps le 1er juin 1968, à la Réunion de Raphaël, là-bas en Suisse. Ensuite, nous nous reproduisons. Comment est-ce que je me suis reproduit? Par l'évangélisation. J'ai enfanté plein de gens dans la foi, des gens un peu partout. J'ai visité 70 pays, j'ai prêché l'évangile, il y a eu des milliers de personnes qui se sont converties. Je suis une cellule productive. Gloire à Dieu! J'ai été fait pour ça, et je le fais pas trop mal. Et beaucoup de monde le savent et l'apprécient. Mais je mourrai aussi, paraît-il, avant la fin de l'été. Il ne me reste pas grand, on est le 6. Donc, nous mourrons aussi. Donc, nous naissons dans le corps de Christ, nous nous reproduisons par l'évangélisation, et nous mourrons aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, mourir? Le corps de Christ d'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui, n'est pas composé des mêmes membres que l'Église du 15e siècle. Ah! L'Église d'aujourd'hui n'est pas même composée des cellules qui formaient l'Église même en l'an 2000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Il y a dans le corps de Christ des cellules qui réparent les dommages. Et puis d'autres qui emportent les déchets. Comme dans le corps humain. Comme dans notre corps humain. Chaque membre du corps de Christ, chaque cellule a sa fonction particulière. Et il y a des cellules qui agissent en communauté, comme je vous disais au début. Mais toutes les cellules trouvent leur origine dans l'esprit Christ, l'esprit de ce corps. Ce qui veut dire que, c'est bien de dire Alléluia, Alléluia, mais écoutez, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que rien, aucune chose, aucune cellule, aucun événement, rien n'a d'origine, ni de permanence, ni même de réalité en dehors de l'esprit. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Tout est produit par la pensée de Christ et peut donc être effacé par la pensée de Christ. Cela, c'est ce qu'on appelle la volonté manifestée de Dieu sur son propre corps qui est l'Église. Une chose existe, Dieu l'a voulu. Ce n'est pas simplement comment on appelle ça, de la bêtise, comment on dit, le fatalisme, ce n'est pas ça. C'est avoir foi que Dieu tient toutes choses dans ses mains. On chante ça. Il tient le monde dans ses mains. Il tient tout dans ses mains. Il sait tout, il connaît tout. Il a déjà vu tout à l'avance. Comme je vous disais vendredi passé, même le sacrifice a eu lieu dès la fondation du monde. Le sacrifice, l'immolation de l'agneau de Dieu. Tout est... Voilà. Une chose existe, c'est que Dieu l'a voulu. On a lu tout à l'heure. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonnée? Qui dira qu'une chose existe sans que le Seigneur l'ait ordonnée? Qui? Allez, dites-moi, qui? Ouais, c'est de la faute d'un tel. Ouais, c'est de la faute d'un tel. Ça fonctionne pour notre propre corps. Ce que je crains m'arrive. Il en sera fait selon ta foi, selon ce que tu crois. Et cela fonctionne d'autant mieux, encore beaucoup mieux, dans le corps de Christ, dans l'Église, à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle locale. Il y a des microbes qui attaquent. Dieu n'est pas surpris. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui leur permet d'attaquer. Et il a pourvu dans son propre corps, et il y a une armée d'anticorps qui se soulèvent et qui combattent. C'est comme ça. L'Esprit de Dieu, c'est l'intelligence de par qui tout arrive. On a lu, Jérémie 3, 38 nous dit, c'est ce qu'on a lu, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Hein, le diable m'attaque. Pas toujours. Pas toujours mettre sur le dos du diable. « Ouais, un tel m'attaque. Hein » Regarde un peu plus haut, arrête d'être charnel. Il dit, alors, de quoi est-ce que vous allez vous plaindre? Puisque tout vient de Dieu. Plaignez-vous donc de vos propres péchés, hein? De vos propres erreurs à vous, personnelles. Occupez-vous de vos oignons. C'est ça que ça veut dire. Ce qui arrive est donc le reflet de la pensée de Christ. Alors, ça peut sembler étrange si on a une idée bisounours de Dieu. Hein? Dieu, c'est comme dans Tintin, vous savez, le petit Milou blanc qui est gentil, puis le diable, c'est le petit Milou noir qui est méchant. Voilà, c'est tout simple. Il y a le bien, le mal, point final. Et là, Dieu nous dit, il y a même les mots, c'est moi qui... Qu'est-ce qui arrive sans la volonté de Dieu? C'est moi, les mots arrivent par ma volonté, c'est comme ça, c'est pas autrement. Dieu veut les choses, c'est Dieu qui fait les choses. Alors, vous allez dire, oui, mais Dieu ne fait pas de mal. Bien sûr que non, Dieu ne se salit pas les mains. Il a créé des cellules pour le faire. Le diable, par exemple, ou certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il se sert d'esprit inférieur pour faire les choses qui mettent un peu la panique dans le corps de Christ. Et voilà pourquoi il est bon d'être en communion avec Christ pour connaître ces choses. Parce que quand on sait cela, au sujet du corps de Christ, eh bien on n'est pas étonné de l'apostasie. Mais si j'étais Dieu, je ne permettrais pas l'apostasie. Ben, pourquoi il permet l'apostasie? Il a une volonté là derrière. Il a une raison. Si j'étais Dieu, je ne permettrais pas la recrudescence des faux prophètes. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus facile pour Dieu? Il fait ça et ils sont tous morts. Mais il ne fait pas. Il les laisse faire. Et il y a une raison à ça. Quand on sait toutes ces choses-là au sujet de Dieu, on n'est pas étonné, ni par les hérésies qui circulent dans le corps, ni par rien du tout. Il y en a un là, il a dit, c'est Claude Inierski, dans le 13-14 septembre, Jésus revient pour enlever son Église. Ben, voilà. Il nous reste une semaine pour voir, hein. Dans une semaine on verra. Moi je dis que c'est faux, mais il trouble beaucoup de gens, il y a des gens qui ont peur. Puis il y a des gens qui se sanctifient comme des malades pour la fin, là, juste la dernière semaine, en se disant, oh, mon Dieu, si c'était vrai, je n'y crois pas vraiment, mais au cas où c'est vrai, alors ils se sanctifient comme des malades. Puis le 15, ben, pff, oh là là, bon, puis ils reprendront leur vieux truc. Vous comprenez? C'est comme ça que ça va se passer. Chasse le naturel, il revient au galop. C'est pas spirituel, cette façon de faire. C'est pas comme ça, c'est pas juste, c'est pas bon. Alors, son corps, son Église est malade aujourd'hui. Mais il l'a rétabli. Il est en train de la guérir. Amen. C'est vrai. Chaque, on le sait, hein, chaque effet a une cause, on le sait. Et si nous ne sommes pas des aveugles, comme les Laodicéens, misérables, pauvres, aveugles et nus, si nous ne sommes pas des aveugles, nous pouvons suivre la piste de chaque effet et trouver la cause, le pourquoi de l'effet. Remonter pour trouver la cause. Et puis c'est comme ça qu'on peut découvrir le principe créateur dont l'effet s'est développé. Comment ça s'est développé? Comment est-ce que... Il y en a qui ont dit l'autre jour, mais comment on en est arrivé là? Mais moi, je peux vous expliquer comment on en est arrivé là. Il n'y avait qu'à se placer derrière la porte du... Comment on appelle ça? De la cave, là. Celle qui descend de la lingerie. Puis d'écouter tout ce qui se racontait. Hein, sœur Intel, elle a dit ça, le frère Intel, il a fait ça, puis t'as vu, moi je trouve que c'est pas juste, puis ceci, puis cela, gna 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 gna. Pendant des années, des mauvais esprits sont rentrés chez nous avec ça. Voilà. Plutôt que d'aller trouver le frère qui a fait une erreur, puis d'aller lui parler. On parlait dans le dos, on se met des germes de, comment on appelle ça, d'amertume, et puis ça envahit. Et puis ça, voilà, puis ça a explosé un jour. C'est comme ça. On peut remonter, voir d'où ça vient. D'où ça vient. Pas difficile. Un manque de soumission. Je me rappelle, il y avait un couple qui était là avec 4 enfants. Alors on a dit, bon, on va quand même, c'est pas possible. Ils ont une chambre et puis ils ont leurs 4 gamins là-dedans, ça va pas. Mais ils voulaient pas se séparer de leurs gamins. Quand on a mis leurs gamins dans des chambres normales, des jeunes filles, eh bien tout de suite, c'est évident, les enfants, ils se chipotent. Hein? Alors les parents ont dit, voyez, c'est insupportable, c'est insupportable, on reprend nos enfants. Ben, ils ont repris leurs enfants dans leur chambre. Ils n'avaient plus de vie de couple. Les enfants, c'était pas normal. Et ben, ils n'ont pas traîné. Hein. Insoumission. Ne pas faire les choses normales de la vie. Vouloir régler les choses d'une façon bête, on ne règle pas les choses comme ça. Ils n'ont pas voulu écouter l'intelligence. Ben voilà où ils sont maintenant. Ils sont branamistes à fond de cale. Et un de leurs enfants, je crois même deux, sont des drogués. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. On peut toujours découvrir, quand on voit un effet, ce qui se passe, la cause en remontant. Et on trouve. Ce que nous voyons est contrôlé par un pouvoir invisible, celui de Dieu. Alors, ça semblait inexplicable jusqu'à il n'y a pas très longtemps, mais Dieu donne de l'intelligence à la fin des temps pour que ceux qui cherchent trouvent. Et Dieu nous a beaucoup montré ces derniers temps. Notre vie personnelle, nos vies personnelles, sont en progression selon leur nature. Il n'y a pas très longtemps encore, avant on savait rien au sujet de la semence du diable. On ne savait rien de toutes ces choses-là. Hein. Livrer ne peut pas progresser et devenir du bon grain. Livrée, quand elle progresse, elle devient un bel épi d'ivraie. C'est comme ça. Ça peut pas. C'est pas possible. En progressant, l'ivraie montre de plus en plus ce qu'elle est. Et pour ce qui concerne Dieu, eh bien, nous voyons de plus en plus clairement les deux sortes d'esprits qui s'affrontent dans les lieux célestes. Mais ces deux sortes d'esprits, ils viennent de Dieu. C'est qui a créé le diable? C'est qui a créé les démons? Et dans quel but il les a créés? Pour le jour du jugement, pour la perdition. Pourquoi il a fait? Il a une raison. On la connaît un peu maintenant. Et ce combat qui a lieu dans les lieux célestes, eh bien, il a aussi ses répercussions sur la terre, parce que la terre, c'est le champ de bataille de Dieu pour toutes ces choses-là. Alors, ils s'affrontent, ces deux forces s'affrontent sur la terre, en particulier dans l'Église. C'est pourquoi nous voyons que le combat, il est religieux. Le combat, il est spirituel. Vous avez des gens qui, au nom du même Dieu que nous, ils pensent que c'est... Vous savez, on dit qu'il y a trois religions monothéistes. Ben, il y a des gens qui, au nom de la religion, ils pensent que c'est le même Dieu que nous. Eh ben, ils tuent. Ils tuent les juifs et ils tuent les chrétiens. Parce qu'on est des soi-disant des infidèles, des idolâtres. Quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pour eux, c'est un blasphème. Ils tuent pour ça. Ils me disent, ah ouais, mais pas ici. Non, bien sûr, pas ici. Ce n'est pas une raison pour s'en foutre. Hein. Nos frères et sœurs, il y en a des milliers qui souffrent d'une façon épouvantable. Épouvantable. Pourquoi vous croyez qu'ils fuient tous ces... Alors là, on parle de ces immigrés. Là, il y a eu cette photo épouvantable, bouleversante, de cet enfant la tête dans le sable. Pourquoi vous croyez qu'ils fuient ces pays? Parce qu'il fait trop chaud? C'est un combat spirituel, c'est un combat aussi avec les finances. Il y a toutes ces personnes qui sont là, cachées derrière, et qui mettent la panique. Les banques, par exemple, les banques, elles prêtent à l'État parce que c'est beaucoup plus avantageux que les banques prêtent à l'État plutôt qu'aux particuliers. C'est pourquoi ils refusent les crédits à tout le monde. On connaît combien de gens qui ont des problèmes, ils n'arrivent pas à avoir des crédits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant de prêter à des privés. C'est tellement plus intéressant de prêter à des États, hein, à l'État. Puis vous avez vu ce qu'ils font? Vous avez vu le ministère de la Justice? Combien ils ont de personnel qui sont dans l'illégalité? Des milliers. Le ministère de la Justice. Non, mais c'est incroyable. En France, hein. En Suisse, ça va encore bien. Bon, voilà, parce qu'on a un pays d'ordre, etc. Donc, on voit de plus en plus clairement que c'est un problème, c'est un combat spirituel et financier, parce que l'ennemi numéro un, à part la mort, hein, bien sûr, c'est Mammon. C'est Dieu ou Mammon. Alors, c'est par l'argent. Ils tiennent les gens par l'argent. Ah, l'argent. Tant que vous ne parlez pas d'argent, oh, ça va. Tant qu'on dit l'argent, ah, oh, l'argent. Dieu a créé le diable dans un but, le but de le perdre. On trouve ça dans Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Voilà. Ah, ça, c'est pas l'idée bisounours de Dieu, hein. Mais les païens ont raison de poser des questions. Hein, s'il y avait un Dieu, pourquoi il y a tant de misère? Les chrétiens n'ont pas de réponse. Nous avons des réponses. On peut expliquer ces choses. Ça paraît étrange au début, puis après on comprend. celui qui réfléchit sur les choses, ça c'est dans le proverbe 16 où il est dit donc que qu'est-ce qui peut arriver sans que l'Éternel ne l'ait voulu, dans le même chapitre, au proverbe 16, verset 20, c'est écrit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Ça veut dire quoi? On peut dire « Alléluia !» ou alors on peut, on ne sait pas, approfondir un peu. Pourquoi nous sommes heureux? Pourquoi nous sommes en marche? Pourquoi nous sommes en progression? Parce que nous sommes des cellules du corps de Christ qui écoutons la voix de l'esprit du corps. L'esprit du corps de Christ, de son Église qui est malade, eh bien, c'est l'esprit de Dieu. Moi, je n'écoute pas les autres cellules, j'écoute Dieu. S'il fallait écouter toutes les cellules, alors, il y en avait un qui dit sur Internet que Judas va ressusciter. Et c'est lui qui va être le faux prophète. Et Alexandre le Grand va ressusciter, c'est lui qui va être l'antichrist. Eh oui. Mais ça, c'est des chrétiens évangéliques. Évangéliques. Ah, s'il faut écouter les autres cellules du corps, vous avez des cellules, blablabla. Hein? C'est le corps de Christ est atteint d'un cancer. Hein? C'est épouvantable. L'autre qui dit que Jésus revient dans une semaine. C'est des évangéliques. C'est des gens qui, quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression que vraiment, ils sont nés de nouveau. Qu'ils sont... Mais ils sont frappadingues. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Et puis, comme ils sont aveugles, ils ne le reconnaissent pas. Pour eux, c'est nous les dingos. C'est nous les dingos. Ben, on verra bien. L'esprit du corps de Christ, donc de l'Église malade, c'est l'esprit de Dieu. Et nous sommes des cellules qui travaillent en communauté avec le même but que l'esprit du corps divin. Le rétablissement. Le rétablissement, ça veut dire quoi? L'ordre. Un corps qui est malade, c'est un corps qui a un désordre. Eh bien, nous travaillons à l'ordre. Frères et sœurs, 1. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. 2. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Alors, réfléchir sur les choses, c'est une des conditions. Se confier dans le Seigneur, c'est une autre condition. La première, elle nous donne le bonheur. Le bonheur, c'est un état. C'est un état de complète satisfaction, de plénitude. Le bonheur est pour ceux qui réfléchissent aux choses de l'Éternel. Une autre définition du mot bonheur, c'est trouver ce qu'on cherche. Ça, c'est le dictionnaire qui dit, hein, parce que la langue française, elle existe, elle a une valeur, les mots ont une valeur, elle se trouve, ces mots se trouvent, et la valeur de ces mots se trouve dans les dictionnaires, pas dans votre imagination. Le bonheur, c'est trouver ce qu'on cherche. Eh bien, tout ça, ça dépend de l'ardeur, de la bonne volonté que nous avons de ne pas agir en tant que cellule vivante avec un esprit négatif. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il ne se met pas aux ordres de l'esprit du corps, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Si vous ne vous mettez pas en accord avec l'esprit de Jésus-Christ, vous agissez en tant que cellule libre, comme elle veut, elle fait comme elle veut. Je pense que, à mon avis, je me sens poussé par. Et puis, eh ben, il y a quelque chose qui ne joue pas et vous ne pouvez pas être dans le bonheur. Ça, c'est clair. Ce que nous faisons, c'est d'obéir à sa volonté, au chuchotement du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous trouvons le bonheur. C'est-à-dire, nous trouvons ce que nous cherchons. Le rétablissement. C'est la première condition, réfléchir sur les choses de l'Éternel. La deuxième condition, se confier en l'Éternel donne d'être heureux. Hein, c'est ce qu'on a lu. En français, le mot bonheur et le mot heureux, vous regardez dans le dictionnaire, c'est presque la même chose dans leur signification. Hein, c'est pas, il y a très peu de nuances. Par contre, dans la langue hébraïque, heureux, je vous l'ai déjà dit souvent, je crois même que c'est Alain Mesme qui avait trouvé la chose dans la Chourak. En marche, ça signifie... heureux, ça signifie en marche sur une voie de rectitude sans obstacle. Voilà ce que ça signifie. Donc, celui qui se confie dans l'Éternel est en marche sur une voie droite sans obstacle. Celui qui se confie en l'Éternel ne rencontre-t-il pas d'obstacles? Bien sûr qu'il rencontre des obstacles, comme le corps rencontre des microbes, comme le corps, voilà. Hein? Mais il est en marche avec bonheur. Il sait à quoi servent les obstacles, et il s'en sert même. Il connaît l'origine des obstacles. C'est Dieu, c'est pas le diable, c'est pas le frère un tel, c'est pas la sœur machin qui bavardait entre la porte de la cuisine et le couloir. C'est pas ça qui est la cause. La cause, la raison, c'est Dieu. Il sait, celui qui connaît ces choses, qui se confie dans l'Éternel, qui réfléchit, il sait que ces obstacles, ces oppositions, elles servent à le faire grandir. Donc, il est dans la louange. Vous savez, un enfant qui grandit, un adolescent, c'est une souffrance. C'est une souffrance d'adolescence, c'est le plus sale moment de la vie, hein, je vous dis tout de suite. Si vous êtes heureux parce que vous êtes adolescent, alors attendez, vous êtes beaucoup plus heureux après, parce que l'adolescence, c'est le plus mauvais moment de la vie. Après, ça devient super, vous allez voir. C'est génial, regardez. Oui. Il y a même des souffrances physiques. Et puis, on a une drôle de voix. On est tout bizarre quand on est adolescent. Hein. Mais c'est des passages obligatoires. Et puis, ça nous fait grandir. Et moi, il faut grandir si on ne grandit pas. C'est quand même terrible. On est toujours des bébés au lait, là. Et puis, on fait ce qu'il faut. Et puis, on est bête. Mais pas très souvent bête et méchant. Pas de progression sans opposition. Ça n'existe pas. Pas de progression sans opposition. C'est pourquoi celui qui sait, il rit en regardant ses ennemis. Ça fait combien d'années qu'on le chante? Quand je vois mes ennemis, mon cœur se réjouit. Voilà. Mais mes ennemis, c'est pas les gens. Oui, au risque de me répéter, l'ordre doit être rétabli dans tous les domaines. Parce que quand quelque chose souffre dans le corps, eh bien tout le corps souffre. Je me répète, je redis tout le temps que chacun de nous fassions ce qui est juste, selon sa propre pensée, pas selon sa propre pensée, au contraire, mais selon l'ordre établi par l'esprit du corps, c'est-à-dire par Dieu, dans lequel nous vivons dans ce corps. Et si nous voulons vivre d'une façon correcte, selon l'ordre établi dans ce corps, eh bien, il suffit pas de dire « je suis soumis à Dieu », il faut être soumis à Dieu et à l'ordre établi dans le corps. Sinon, ça peut pas aller. C'est pourquoi j'appelle à la repentance. Afin que toute chose devienne saine dans le corps de Christ. Que ce soit le corps de Christ local ou que ce soit dans le corps de Christ dans le monde. Bon, je sais bien, très bien, que ce n'est pas parce que je fais un appel à la repentance que l'Église va changer comme ça. Mais j'ai bon espoir qu'il y a des gens sensés, des gens qui aiment la vérité, qui vont la reconnaître et qui vont se repentir et reprendre humblement leur place et faire confiance et avoir de l'amour. Tout peut être réglé avec amour. C'est la volonté de Dieu, l'amour. C'est donc aussi la mienne. Comment voulez-vous que ce que je veux, c'est que les choses soient réglées avec amour. Mais s'il n'y a pas de confiance, alors il faut qu'il y ait une repentance. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Il est aussi justice. Moi, je me suis retiré, comme je dis, je me suis retiré de tout ça, je ne veux pas agir, je laisse agir. Les gens qui savent, les gens dont c'est le métier, mais faites bien attention de ne pas vous tromper d'ennemis. Les ennemis, c'est pas des gens, c'est des esprits qui agitent les gens, c'est pas les gens eux-mêmes. J'exhorte donc chaque membre du corps de Christ, où que vous soyez sur terre, et qui m'écoutez sur le net, à vous mettre devant Dieu sérieusement. Sérieusement. Réfléchissez aux choses de Dieu, confiez-vous en lui, et vous serez heureux, vous serez dans le bonheur. Amen. C'est la vérité, c'est la vérité. Il faut que cet esprit d'aveuglement qui essaie de faire croire aux uns et aux autres qu'ils sont quelque chose qu'ils ne sont pas, il faut que cet esprit-là soit chassé et qu'ils reviennent dans leur bon sens. Et tout peut être réglé par l'amour. Ça ne veut pas dire que ça sera comme avant. Ça ne veut pas dire que ça sera comme avant. Mais au moins, ça sera réglé par l'amour. Ça, c'est important. Amen. Ça fait longtemps que je le dis, que par des prédications, parce que moi, mon ministère, c'est la prédication. C'est pas autre chose. C'est la prédication. Donc je parle au travers de la prédication inspirée par le Seigneur après des longs moments de prière dans mon bureau. Et je prie que ceux qui écoutent prennent garde à ces choses parce que vraiment le corps de Christ est malade maintenant. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de tout ce qui est produit maintenant dans ton corps et permet que certains se reprennent en main, réfléchissent aux choses qui te concernent et sois béni, sois fortifié, sois gardé et sois élevé à la place qui est la leur. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen.